Elle a raison, Bernadette Chamonaz. On n'arrête pas l'écho il y a 10 ans, en pleine crise, à la création de l'émission. Le jeu de mots paraissait spirituel, peut-être, en tout cas inoxydable. Toute la planète écho qui craque, la planète financière qui chute, le pétrole qui flanche, et quasiment au même moment, mais qui y aurait vraiment cru? Et pourtant, nous y voici. L'économie continue de se gripper très sérieusement et c'est un choix. Ralentir nos activités pour ralentir la progression du virus. Bien sûr, la santé avant tout. Donc ce matin, on n'arrête pas les crises. Le ralentissement, la récession, pour qui? Et puis, la question à plusieurs billions avec un B, cette fois, combien de temps mettra-t-on à s'en remettre? Alors, l'écho, on ne l'arrête peut-être pas, Bernadette, mais parfois, elle se met sur pause.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Émission spéciale ce samedi. Coy Nguyen est le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production, Céline Guéribi, le technicien qui nous accompagne. Sommes-nous en train de revivre 2008? Quelles mesures économiques sont sur la table? Ce sera le débat ce matin. Et je salue un homme au cœur du dispositif, c'est le directeur général de BPI France. Bonjour Nicolas Dufourcq.
Bonjour.
BPI France, vous nous rappelez ce que c'est?
BPI France, c'est la banque publique d'investissement, c'est la banque des entrepreneurs, des PME et des entreprises familiales, mais également des grands groupes. Oui.
Et on va donc parler du dispositif de soutien aux entreprises. Merci d'être avec nous ce matin. Nos débatteurs sont là, bien sûr. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et bonjour Emmanuel Lechypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Il vous dérange, vous, le titre de notre émission, on n'arrête pas l'écho?
Non, on n'arrêtera jamais l'écho.
Christian?
Ben oui, d'ailleurs, elle va repartir.
Elle va rebondir, on va essayer d'en parler, ça aussi. À tout de suite, dans une poignée de secondes, le débat. Dans le Mag Echo, nous ferons aussi le film de cette semaine, Double Crack sur les marchés. Vous entendrez le reportage de Claire Chaudière. Et notre invité, c'est le patron du groupe Euronext, qui gère les bourses de Paris, d'Amsterdam, de Bruxelles, Lisbonne et Dublin. Stéphane Boujna sera avec nous dans ce studio vers 9h45. Et puis enfin, ce sera le moment ma vie quand je ne peux pas aller au boulot. Bonjour Sandrine.
Exactement Alexandra. Beaucoup de questions d'auditeurs sur le chômage partiel, le télétravail, le maintien du salaire. Comment ça se passe quand on est salarié ou indépendant?
Alors des questions et des réponses, ce sera juste avant 10h. La crise, les explications, les solutions, c'est parti, les trois sons de la semaine.
J'ai décidé de prendre des mesures fortes, mais nécessaires, pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains.
Donald Trump,
pour empêcher de nouveaux cas d'entrée sur notre territoire,
président des États-Unis.
Nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours.
Nous considérons que le choc actuel est sévère,
Christine Lagarde,
but still temporary,
mais encore temporaire,
présidente de la Banque Centrale Européenne.
If the right set of policy measures,
si les bonnes mesures sont prises par l'ensemble des acteurs.
L'épreuve que nous traversons,
Emmanuel Macron,
exige une mobilisation générale sur le plan économique. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte.
Voilà, par ordre d'apparition, Donald Trump, l'électrochoc. Il a interdit le président américain les voyageurs européens sur le sol américain et c'est entré en vigueur depuis 5h ce matin. On a aussi entendu Christine Lagarde qui a annoncé les mesures de la BCE mais qui renvoie la balle aux États. Et Emmanuel Macron et son « quoi qu'il en coûte », il l'a répété 3 fois. On en reparlera, mais d'abord une question pour vous Nicolas Dufourcq. Comment est-ce que vous vivez la situation? Est-ce que pour vous, ça y est, on est de retour en 2008?
On est dans une crise assez différente de 2008. 2008 était grave, bien entendu, mais enfin, c'est tout de même un peu étalé dans son déclenchement. Alors que là, on est dans, pour certains secteurs, quelque chose qui ressemble tout à fait à une crise cardiaque. C'est-à-dire que vous avez des secteurs comme l'hôtellerie, l'événementiel, la restauration, le traiteur, les autocaristes, qui, du jour au lendemain, n'ont plus du tout de clients. Et se pose la question, pure et simplement, de la fermeture temporaire. La fermeture presque administrative, j'ai envie de vous dire. Donc des hôtels qui ferment. Et donc, beaucoup de chômage partiel et des besoins de cash tout à fait considérables. Donc, il est évident que la dette détresse de ces entrepreneurs est profonde, hein, très très profonde. On les a au téléphone à longueur de journée. On a un numéro vert. On a eu hier.
Allez-y.
Je pense que vous l'affichez, non ?
On va l'afficher.
D'accord. Et donc, on a eu hier plus de 1000 appels. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux ? C'est très simple. Il faut un pont aérien de cash. Et c'est ce qu'on va faire.
Nicolas, je peux me permettre, on n'est pas à la télé, donc il faut donner le numéro.
Je l'ai pas.
Ben voilà, c'est pour ça qu'on va le mettre.
Ah,
ah, finesse, merci Emmanuel Le Chypre de mettre les pieds dans le plat. Bah, question pour vous, tiens.
Oui.
C'est bien fait. Est-ce que c'est aussi grave qu'en 2008 ?
En tout cas, la semaine, c'est la semaine de toutes les prises de conscience. C'est la semaine des prises de conscience sanitaires avec la montée en puissance de tous les dispositifs spectaculaires de confinement dans tous les pays. Et encore une fois, les économistes vous disent, quand on a une crise sanitaire aussi grave, il faut assumer des mesures spectaculaires à court terme pour ne pas trop pénaliser l'économie à long terme. Prise de conscience financière avec deux cracks sur les marchés, la pire journée du CAC 40 depuis sa création.
Moins 12,28%.
Voilà. Et puis prise de conscience aussi du côté des solutions avec des politiques économiques quand même à la fois sur le plan monétaire où on a un semblant de coordination en fin de semaine avec la réserve fédérale qui met 1500 milliards aux États-Unis sur la table, la BCE qui a quand même une réponse, toutes les banques centrales qui réagissent et tous les États qui sortent la grosse artillerie avec ce leitmotiv, effectivement, du quoi qu'il en coûte, parce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui a dit qu'il ferait ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte. Donc c'est la grande semaine des prises de conscience et il y a un point commun avec 2008 qui est sur les conséquences que ça pourrait entraîner sur le système financier. Mais sinon, c'est très différent.
On va en parler. Christian Chavagneux.
Pour moi, trois différences essentielles. On n'est pas du tout en 2008. 2008, on était une économie mondiale, au bord de l'apoplexie. Tout aurait pu s'arrêter. La crise de 1930, pardon, à côté, ça aurait été de la rigolade. On n'est pas du tout dans cette situation. D'abord, la crise de 2008, c'était une crise qui était liée au fonctionnement même du capitalisme. On avait dérégulé la finance. On a permis que ce petit marché immobilier américain devienne un porteur de virus de risque partout dans l'économie mondiale.
On se souvient des subprimes quand vous dites le petit marché.
C'est le mot subprime. À ce moment-là, on était vraiment dans une crise de fonctionnement du capitalisme. Là, on est sur une crise qui démarre avec un virus, avec un petit animal qui nous transmet. Cela dit, je remercie les scientifiques qui m'ont alerté sur le point suivant. Ebola, le Covid-19, le SRAS, toutes ces maladies, elles viennent aussi en partie du fait qu'on a de la déforestation et du fait qu'on a le réchauffement climatique. Donc le fait de transmettre des maladies et le fait qu'on ait de plus en plus de virus, en fait, depuis le début des années 2000, qui passent de l'animal à l'homme, c'est aussi le fait de notre fonctionnement capitaliste. Enfin, quand même, première grande différence. Crise structurelle qui était liée au fonctionnement du capitalisme, là non. Deuxième grande différence, on partait de la finance qui s'est complètement bloquée et qui a bloqué l'économie réelle. Là, on est dans l'autre sens. L'économie réelle, on la bloque nous-mêmes et ça crée des problèmes financiers. Puis troisième grande différence, c'était un dérèglement structurel. On a mis des années à s'en remettre. Là, c'est un dérèglement conjoncturel. Il y a un petit côté infarctus, mais on s'en remet d'un infarctus. Et donc là, on va pouvoir repartir assez vite.
Emmanuel.
Alors, il y a un point commun quand même, c'est que ce qu'on a appelé la crise des subprimes, en fait, c'était pas la crise des subprimes. Les subprimes, c'était un petit marché, c'était 300 milliards de dollars, c'était pas grand-chose.
C'est
pas le baril de poudre qui a fait sauter la finance mondiale. C'était l'allumette, c'était l'étincelle. Et effectivement, le baril de poudre, c'était ce qu'on appelait la titrisation, tout ce que les banques avaient hors bilan, qui était absolument considérable. Là, cette fois-ci, pourquoi il y a un point commun, c'est que ce coronavirus, ça pourrait être aussi l'étincelle qui quand même vient impacter des marchés financiers sur lesquels on avait quand même, il y a quand même des déséquilibres importants. Il y avait quand même les bourses qui avaient atteint des niveaux un peu stratosphériques. Quand vous voyez qu'une valeur comme Tesla par exemple a fait x3 en deux mois,
ça, le Nasdaq a fait 20%, oui.
Voilà, en plus, etc. Mais... Donc il y avait, et puis il y a surtout ce marché de la dette des entreprises où on était dans un monde où le risque valait zéro et le temps valait zéro, les taux d'intérêt étaient nuls.
Mais moi j'ai besoin d'une réponse plus simple que ça finalement. Emmanuel ou Nicolas Dufour, est-ce que c'est... Là, on voit quand même, en effet, vous parlez de la finance, et on y reviendra en deuxième partie d'émission. Mais il y a l'économie réelle, on voit tout qui ralentit, qui s'arrête ou qui s'effondre.
Oui, mais on sait quand
est-ce
ça
que
va se finir.
Alors
c'est
voilà,
ça, la
est-ce que c'est plus grave ou l'infarctus, est-ce que c'est plus grave que 2008,
moi, l'infarctus de 2020? Je pense que, comme d'habitude, il faut revenir à la psychologie des acteurs. Si on se met tous dans une psychologie de court terme, ça sera une crise longue. Il faut s'imposer une discipline, notamment dans tous les investissements qu'on fait, les décisions stratégiques que nous prenons, qui est une discipline de réflexion à long terme. Pour nous, aujourd'hui encore, cette crise est éphémère. Regardez ce qui se passe en Chine aujourd'hui. La Chine est en train de repartir. Deux informations intéressantes, je pense, pour les auditeurs, c'est qu'au mois de mars, vous prenez deux belles marques européennes. L'une qui est une marque de luxe, Bon. Les ventes du mois de mars 2020 en Chine sur cette marque de luxe européenne sont supérieures à celles de mars 2019. Donc les clients sont revenus. Prenez une deuxième entreprise qui est dans la lunetterie, que je ne vais pas citer, mais tout le monde la reconnaîtra. Les ventes sont excellentes en Chine en mars 2020.
Donc vous voilà.
Et donc la crise chinoise est éphémère. Il ne faudrait pas que la crise européenne soit durable. Et pour ça, il faut qu'on ait une psychologie qui est une psychologie, encore une fois, très mesurée et très disciplinée. Je suis très inquiet parfois de voir que certains considèrent qu'au fond, le cycle a déjà été assez long comme ça. Et qu'après tout, le moment est peut-être venu d'accepter la fin du cycle. Nous ne l'acceptons pas.
Christian Chavagneux.
Oui, il faut se rappeler cette analyse du Fonds monétaire international. Là, les gens vont moins travailler, les usines ferment, on est au ralenti. Ça, le Fonds monétaire international nous dit, ça explique un tiers du ralentissement de l'économie. Les deux tiers sont les effets psychologiques dont vient de parler Nicolas Dufour. Le fait que, on va moins dépenser, on va moins s'endetter du côté des entreprises, du côté des ménages. Deux tiers de psychologie pour un tiers de réel.
Exactement.
Donc, il faut combattre cet aspect psychologique. Et on sait qu'on peut le combattre. La Chine nous le montre. L'ensemble des autres pays qui sont un peu en avance sur nous le montrent. On plonge beaucoup et on va repartir aussi vite.
Encore une petite pause sur on plonge beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, quand même, le chef de l'État a annoncé des mesures qui vont vraiment ralentir l'économie. Je pense aux écoles fermées, etc. Emmanuel, les prochains jours, les entreprises, comment ça va se passer?
Alors, il y a des secteurs pour qui, effectivement, c'est spectaculaire et bien plus spectaculaire qu'en 2008 où à peu près toute l'économie était touchée de façon diffuse. Là, vous avez des secteurs qui vont être à l'arrêt complètement. Tourisme, hôtellerie, restauration, c'est les secteurs que citait Nicolas, le transport.
Mais est-ce que ça va s'étendre, la question
est celle-ci. Restauration collective. Non, c'est des secteurs qui ne vont pas avoir de commandes pendant 6 mois. Voilà, qui ne vont pas travailler pendant 6 mois. Donc ce qu'a dit le président de la République et ce qu'a dit Bruno Le Maire d'une autre façon en disant on fera ce qui est nécessaire et au-delà, si on arrive effectivement à prendre les mesures qui maintiennent ces entreprises qui par ailleurs sont tout à fait viables en temps normal, si on arrive à maintenir ces entreprises à flot, effectivement, dès que les interdictions seront levées, eh bien ça repartira. Parce que c'est bien beau la psychologie, mais dès l'instant où vous ne savez pas si les spectacles vont être maintenus ou pas, bêtement, vous n'allez pas acheter de billets, tout simplement. Donc, quand les règles du jeu seront plus claires, c'est-à-dire quand on aura à nouveau le droit de se déplacer, quand on aura à nouveau le droit d'aller dans les spectacles, etc., oui, les gens reviendront. Mais ça, ce sera, dans quelques mois.
Nicolas Dufour, le patron de BPI.
Autant la situation est claire pour tous les secteurs qui sont de l'ordre de la vie sociale, effectivement.
Ouais.
C'est-à-dire tous les rassemblements, le spectacle, le tourisme, etc. Pour lesquels, encore une fois, on met en place un plan absolument massif. C'est un plan par lequel nous allons garantir les crédits de trésorerie de l'ensemble de ces secteurs à 90%. Ça veut dire très simplement que si les entreprises tombent, c'est l'État et BPI France qui rembourseront les banques.
Attends, il faut d'abord que les banques accordent les crédits quand même.
Nous aussi accorder des crédits. Et par ailleurs, les banques, je tiens à le souligner, sont en train de faire un travail tout à fait exceptionnel de mobilisation au profit de ces secteurs. Voilà. Ce d'autant plus que nous allons les garantir à 90% sur leurs risques. Bon. Maintenant, les autres secteurs ne sont pas touchés. Mais il y a des canaux de transmission de la crise. Et ces canaux sont psychologiques. C'est ça que je veux dire. Alors, il y a un canal qui est entre les deux, on va dire. C'est celui du monde du transport aérien, évidemment. Il se trouve qu'aujourd'hui, so far so good, je ne parle pas d'Air France, mais je parle des constructeurs et de toute la filière qui est très importante pour l'économie française. On est, nous, investisseurs dans des très grandes entreprises industrielles françaises, que ce soit STMicroelectronics, que ce soit Peugeot, Valeo, Technip, etc. Pour l'instant, so far so good. C'est-à-dire que les commandes ne sont pas annulées. Et donc, tout le sujet, c'est celui de ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire que les entrepôts soient remplis, que les pièces détachées arrivent dans les usines.
La chaîne d'approvisionnement.
Bon, pour l'instant, ça tient. Avec des efforts qui sont des efforts absolument remarquables, de quantité d'ingénieurs qu'il faut absolument saluer en la matière. Les bateaux qui partent de Chine sont à nouveau pleins, la Chine est repartie. Et donc vraiment, j'insiste, ça n'est pas une crise économique, c'est une épidémie.
Oui, mais Nicolas, le sujet, c'est pas les grandes entreprises qui ont quand même les reins assez solides, etc.
Je te parle bien de la filière.
C'est les entreprises de quelques personnes, quelques salariés, quelques dizaines de salariés, pour qui la question de la survie, c'est quelques semaines. La moitié des autocaristes, il y a 1000 autocaristes en France, la moitié qui vous dit en quelques semaines, si on n'est pas aidé, on est mort.
Encore une fois, quand même, Christian Chavagneux, est-ce que on va avoir, là, Emmanuel Le Chip parler de 6 mois. Est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain mois, les 2 prochains mois? Est-ce qu'on sait qu'on va avoir, ça y est, c'est fait, une récession? Il faut, oui, dire aux gens ce que c'est. Oui. Et est-ce que on sait déjà si ça va remonter? La Chine repart. Les économistes, est-ce qu'ils se disent, bah ça y est, le V, la remontée en V, ça marche pas? Quels sont les scénarios du futur?
Ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est qu'on va continuer à ralentir l'économie française. Au premier semestre de 2020, on sera en récession en France. C'est-à-dire que si on a produit 100 au premier semestre 2019, au premier semestre 2020, on sera en dessous de 100. Donc techniquement, la France sera en récession. Quand vous faites un V, on est en train de descendre la première partie du V. Mais ce qu'a dit Nicolas Dufour, qui est très important,
très important.
La Chine, on a vu tous qu'on a plein de petits éléments, ça repart. Donc on est vraiment sur la courbe en cloche de notre collège, vous savez, hop, ça monte, ça redescend. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Ce qui nous a dit que les commandes continuent à être importantes, ça, c'est un élément clé que moi, par exemple, je n'avais pas. Donc ça veut dire que toute l'économie n'est pas arrêtée. Ça veut dire qu'il y a des infarctus, et ce qu'a dit Emmanuel, dans plein de secteurs qui sont touchés. Mais tout de suite, ils peuvent mourir demain matin. Donc ceux-là, on va les aider. Ceux-là, c'était ça la clé. Est-ce que les gouvernements, est-ce que les banques centrales sont là pour aider les entreprises, les PME qui ont du mal à faire de la trésorerie, les grandes entreprises qui ont du mal à se financer, les banques qui peuvent souffrir de la variation des marchés financiers? Est-ce qu'on fait quelque chose sur les trois? Et moi, je pense que oui, on va en parler.
On en parle maintenant, Nicolas Dufour. Allez-y, ça y est.
Moi, je ne l'ai pas pris par cœur. 0,969... 370, 240.
C'est pour qui? C'est pour les entreprises.
C'est pour quiconque vit une difficulté de
cash. Et répétez-le.
0,969, 370, 240.
Alors, que faites-vous, l'abbé? Est-ce qu'on peut détailler sur, en effet, les gens qui vous appellent, ce que vous pouvez leur proposer? Vous en avez déjà un peu parlé, on peut y revenir.
Écoutez, il y a tout un arsenal de solutions, mais pour résumer, nous allons garantir le risque à 90%. Des crédits, aussi bien d'ailleurs ceux que nous faisons, hein, qui peuvent être des crédits qui vont traverser toute la crise, sur plusieurs mois, plusieurs années, voire 5 ans avec des différés de remboursement, que les crédits des banques françaises, de trésorerie, ou de passage de la période difficile que nous vivons, et qui sont accordés en ce moment.
Et vous dites que les banques françaises sont en train de bien réagir, c'est-à-dire que vous ne constatez pas, vous qui garantissez ces crédits, vous constatez que lorsque les entreprises en difficulté vont les voir, pour l'instant, la réponse est...
Les banques sont très proches de leurs clients, elles sont en particulier très proches de leurs petits clients, les TPE, hein. Et je pense qu'on peut dire qu'on peut leur faire confiance, mais évidemment, le risque est là, et c'est la raison pour laquelle nous le couvrons. Mmh. Hein? Donc, encore une fois, c'est tout à fait exceptionnel de couvrir un risque à 90% jusqu'ici. Pour les crédits les plus risqués, nous couvrons à 50%. Donc nous montons de 50 à 90, avec des ressources qui sont des ressources publiques, budgétaires. Hein? Donc c'est un engagement de l'État dont je parle là.
Et là, on va arriver au quoi qu'il en coûte à un moment donné, bien sûr. Hein?
Ouais. On est dans le quoi qu'il en coûte de ce point de vue-là. Hein? Donc aujourd'hui, le plan de bataille que BPI France a mis en œuvre permet d'injecter 3 milliards d'euros de crédit dans l'économie française. Bon, s'il faut plus, s'il faut passer à 6, 7, 8, 9 milliards, on le fera.
Nicolas, la réalité est peut-être un petit peu moins rose quand même sur les banques. Quand vous discutez avec beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, ils vous disent quand même que les banques, elles ont du mal à être assez allantes pour la distribution de crédit. Ça se passe pas aussi facilement que
ça. Elles viennent chercher la garantie de BPI France et elles accordent du crédit.
Voilà, non, c'est ça.
C'est extrêmement important. Jamais un banquier ne peut se dire qu'en prêtant à une PME ou une TPE, il a une chance d'être remboursé à 90%. Là, on est vraiment pratiquement dans de la gestion administrative de l'économie. Et on a raison de le faire. Parce que, bien évidemment, les PME qui n'ont pas de trésorerie peuvent mourir. Les PME qui ont emprunté déjà de l'argent à leur banque risquaient de ne pas rembourser leur banque. Et donc, on aurait mis en panique les banques. Et là, les États répondent. Les grandes entreprises, elles vont chercher un petit peu moins de l'argent auprès des banques parce qu'avec les taux d'intérêt qui sont très, très, très bas, proches de zéro, voire négatifs pour les plus grandes d'entre elles vont emprunter sur les marchés financiers.
Tant qu'ils veulent répondre,
les marchés financiers se bloquent, à ce moment-là, on dit que... Et là, la BCE est arrivée en disant « Ne vous inquiétez pas, moi, tous les mois, j'achète pour 20 milliards de titres, je vais en mettre 120 milliards de plus. » Et donc, on peut dire, non pas, comme l'ont dit beaucoup d'économistes, qu'on va répartir les 120 milliards de plus entre maintenant et la fin. On va mettre le paquet maintenant pour acheter moins de titres d'État, plus de titres de grandes entreprises privées, s'il y a des grandes entreprises privées qui ont des difficultés à se financer sur les marchés. Donc, voilà un deuxième facteur de crise qui est complètement bloqué. Est-ce qu'on a un problème avec les grandes banques qui... Et ça, ce serait le choc, comme le choc de 2008. Panique sur les marchés financiers, panique entre les banquiers qui disent « je ne sais pas s'il a prêté à des PME, à des grandes entreprises » et donc à ce moment-là, je ne prête plus aux banques. et le tout petit marché de court terme où les banques et les grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent se prêtent, ça se bloque. Et ça c'est ce qui s'est passé en 2008, qui a plombé l'économie mondiale. Ça ne se passera pas. D'abord, la bonne nouvelle de la Banque Centrale Européenne, ce que nous a dit Christine Lagarde, c'est qu'il n'y a aucune tension sur ce marché en Europe aujourd'hui. Il y a des tensions aux États-Unis, elles sont fortes, mais la Réserve fédérale met des centaines de milliards pour éviter ça. La BCE a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de tension, mais je vous préviens, j'ai un guichet ouvert et je vous en donne beaucoup. Donc, il n'y a vraiment aucun souci, à mon sens, aujourd'hui.
Il reste à obtenir une clarification nette de la part de la Banque Centrale Européenne sur le traitement des crédits en difficulté.
Tout à fait.
Des crédits temporairement en difficulté pendant la grande faille que nous vivons.
Qu'est-ce que ça veut dire, le traitement? Ça veut dire
le traitement comptable.
Pour les banques, c'est l'intérêt des
banques. Pour les banques. Les prêts non performants. Il faut que la comptabilisation des prêts non performants ne soit pas punitive pour les banques aujourd'hui.
Mais c'est en cours, c'est en cours.
Emmanuel Le Chypre, est-ce que vous aussi, vous considérez que si on regarde la France, mais au-delà de la France, bien sûr, il y a, c'est vous qui avez parlé d'un bazooka ou d'un arsenal, la réponse est à la hauteur, la réponse économique. On parle que de l'économie.
Si on prend, il y a un changement spectaculaire entre le début de la semaine et la fin de la semaine. C'est-à-dire que si vous mettez les deux derniers jours de la semaine, qui sont d'ailleurs les jours qui ont suivi le krach financier, peut-être qu'on peut se dire que là, l'effondrement de la bourse a eu un effet quand même déclencheur, un effet électrisant, parce que quand même, quand vous avez la Commission européenne, l'Europe qui met 37 milliards et demi, la Commission qui vous dit on oublie les règles de Maastricht sur les déficits, on oublie les contraintes imposées par les règles de concurrence, etc. Les États peuvent intervenir pour aider leurs entreprises. Quand vous avez l'Allemagne qui dit on met 550 milliards d'euros de garantie de crédit aux entreprises, c'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pas 550 milliards qu'on dépense. C'est quand même spectaculaire. Tous les grands pays qui disent qu'ils vont faire effectivement autant que nécessaire. Quand vous avez Donald Trump qui déclare l'état d'urgence, qui dit on met 50 milliards pareil sur la, on est prêt. Ça c'est quand même une réponse, parce que la réponse, le grand plan de relance, c'est pas le moment. Ce dont chaque pays a besoin aujourd'hui, c'est d'aider tous les secteurs en difficulté de façon extrêmement précise.
Si, on a quand même besoin d'annoncer un grand plan de relance.
Pas tout de suite, le moment.
Si, qu'il faut déjà prévoir le coup d'après. Il faut bien évidemment faire tout ce qu'Emmanuel a dit, tout ce que Nicolas Dufourcq a dit pour essayer de juguler. Et on y arrive, je pense. C'est la bonne réponse des banquiers centraux et des États. Et il faut tout de suite, n'oublions pas cet aspect psychologique, dire dès que ça va repartir, il y aura beaucoup de commandes, il y aura beaucoup de demandes. Et là, ce qu'ont fait les Italiens qui sont très touchés, c'est de dire, on a déjà un grand plan de relance. Ce que disent les Allemands, on a déjà un grand plan de relance. Les règles budgétaires, on s'en a franchi et ça, c'est la bonne direction.
Et ça, c'est vraiment une rupture majeure, comme quand l'Allemagne nous dit finalement ma règle d'équilibre.
L'Allemagne, ils mettent des garanties sur la table. Le grand plan de relance, on n'y est pas tout à fait encore.
Nicolas Dufourcq.
Non, encore une fois, je répète le point et l'expression, un pont aérien de cash. Un pont aérien de cash pour les entreprises qui sont en difficulté, avec une hypothèse qui est que ces difficultés sont temporaires, éphémères, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois.
Vous ne savez pas nous le dire.
Non, ça on ne peut pas le dire, puisque tout dépend effectivement de la manière dont l'épidémie va se déployer dans le continent européen, et pas seulement dans chacun des États.
Votre certitude, c'est que ça rebondit. La question, c'est toujours...
Certitude, c'est que si les psychologies ne flanchent pas, si on rentre pas dans un espèce de contexte dépressif collectif où les gens finalement se disent on a compris, c'était un très beau cycle, il a duré 10 ans, c'est terminé, ça repartira. Donc il faut tenir la psychologie à tout prix.
Emmanuel Le Chypre.
Mais on voit bien d'ailleurs sur, par exemple, le recours massif qui va être fait au chômage partiel, qui est quand même un des éléments clés du dispositif, va être absolument déterminant. Et autant en 2008, on n'avait pas tellement utilisé le chômage partiel, et le chômage avait beaucoup monté derrière parce que la crise était longue, on ne savait pas combien de temps elle allait durer, parce que le chômage partiel c'était compliqué. Là, on voit bien que le recours au chômage partiel va être massif, et ça va être une grosse partie des sommes qui vont être dépensées, il y a plusieurs centaines de milliers de salariés. Mais quand vous êtes une entreprise aujourd'hui, que on sait qu'une entreprise sur deux a des difficultés à recruter, que vous savez que la crise elle va durer 6 mois, il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui disent qu'elles vont licencier. Il y a peu d'entreprises encore, il n'y a pas de plan de licenciement sur le marché aujourd'hui.
Nicolas Dufourcq, vous n'entendez rien de ce que vous qui êtes vraiment branché terrain?
Ce que j'entends, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que les entreprises vont recourir au chômage partiel.
Et ça ne va pas durer 6 mois. Enfin, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on peut se mettre dans la psychologie telle que ça durerait 6 mois. La Chine nous montre l'exemple.
Non, mais 6 mois en tout, globalement. C'est-à-dire qu'en gros, on aura un premier semestre et qu'à partir de l'été, ça devrait recommencer à aller mieux.
Voire même à partir du mois de mai, normalement, ça devrait commencer. Enfin,
on aura eu un semestre compliqué.
l'épidémiologie nous disent que finalement on est hors toutes les courbes mondiales et toutes les courbes théoriques, et je vois pas pourquoi on le serait a priori et on devrait parier là-dessus. Si on reste dans la logique, et pour l'instant on est vraiment absolument incroyablement dans toutes les courbes théoriques de tous les modèles d'épidémiologie, à ce moment-là, normalement, dès le mois de mai, ça devrait repartir.
En fait, ce qui va être tout à fait clé, l'heure Nicolas de vérité, ça sera la consommation des Français à partir, on va dire, du 15 mai, hein, et donc dans les mois très sensibles, qui sont les mois du mois de juin et le mois de juillet. Et puis par ailleurs, l'heure de vérité, ça va être les commandes industrielles du deuxième trimestre. C'est là qu'on va voir si les gens, encore une fois, sont dans une psychologie de moyen terme, long terme, où les choses continuent, ou s'ils se sont placés dans une psychologie de court terme.
Il y aura un jour clé, c'est le jour où on verra qu'au niveau mondial, le nombre de cas de coronavirus diminue. Et là, on aura l'impression qu'on aura basculé vers la fin de l'épidémie. Et sur la psychologie de tous les acteurs économiques et financiers, ce sera majeur.
Il y a une chose qu'on n'a pas abordée rapidement. On a beaucoup parlé, et le chef de l'État en a parlé, de coordination, de besoin d'appel à la coordination. Pour l'instant, quand même, c'est vrai qu'il y a un plan majeur. Mais chacun le fait un peu dans son coin. Il y a de l'échange d'informations.
Aucun des pays ne sont touchés de la même façon. À l'intérieur des pays, aucune des régions n'est touchée de la même façon. À l'intérieur des régions, les individus ne sont pas touchés de la même façon. C'est bien que tout le monde réagisse, chacun dans son coin. Il n'y avait pas besoin d'une grande coordination G20, G7. A priori, c'était très bien.
Nicolas Dufour, le mot de la fin.
De toute façon, on est tous en train d'apprendre quelque chose. Exactement, pour lequel nous n'étions pas préparés. Ouais. Et donc, on est en train d'apprendre qu'en fait, la meilleure solution probablement pour l'Europe, ça serait une fermeture administrative complète de 15 jours. Bon, on est en train d'y venir. Personne n'y croyait en début de semaine, mais c'est en réalité ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et c'est la solution prophylaxique la plus efficace et en même temps la plus courte. Voilà.
Emmanuel.
Il y a quand même des entreprises qui risquent de pas passer le cap. Finalement, paradoxalement, ce sont ce qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui ont prospéré ces dernières années sur les taux d'intérêt nuls, c'est-à-dire qui ont pu emprunter à des taux d'intérêt nuls, même si elles étaient risquées, etc. Et ça.
Mais elles pourront faire appel aux garanties publiques.
Oui, mais ça, est-ce qu'il les donnera, Nicolas Dufour?
Oui, parce qu'il n'y aura pas de choix.
Alors à ce moment-là, il n'y aura pas eu cet effet darwinien qu'ont toutes les crises sur l'économie.
Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, merci d'avoir été avec nous. Vous restez sur ce plateau, Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux, bien sûr, vous restez également. Merci à vous pour ce débat. À venir dans 10 minutes, c'est notre invité, le PDG d'Euronext, Stéphane Boujna. Euronext, c'est l'opérateur boursier qui gère plusieurs places européennes, dont Paris. Nous sommes toujours dans le Mag Éco, émission spéciale au terme d'une semaine qui ne l'a pas moins été. Panique des marchés financiers, la stupeur des investisseurs. On se refait le film avec notre reporter Claire Chaudière.
Chacune représente une société cotée.
Donc là, on voit pas mal de chiffres qui clignotent.
Ça clignote toujours parce que ça cote en permanence, donc les valeurs se déplacent tout le temps, mais c'est plus rouge que d'habitude et c'est des amplitudes qui sont vraiment très très rares. On est sur le marché depuis 25 ans. Des séances comme ça, on en a vu peut-être deux.
Ah oui. Là, les baisses que vous voyez, c'est quoi?
Vous avez les plus fortes baisses, donc avec Compagnie Générale de Géophysique qui baisse de 37% en une seule journée, alors qu'il n'y a pas de nouvelles particulières autre que la baisse du prix du pétrole. Toutes les sociétés qui sont des services pétroliers sont en baisse de l'ordre de 20% sur la journée, suivies de très près par les banques qui sont en baisse de l'ordre de 15-20%. Un indice qui a touché moins 8, quasiment moins 9 en journée, c'est extrêmement rare. On a vu en 2008, et avant on l'avait vu, non c'est tout, jamais, jamais. Ayant commencé dans les années 90, on n'a vu qu'une fois.
Vous voyez en live, l'OMS a déclaré que le Covid-19 était passé en stade pandémie, pour l'instant.
On a perdu 8%, mais voilà.
On va dire que tout vient s'entrechoquer un petit peu au même moment, quoi. C'est surtout ça qui est...
Le jour, voilà, où on voit tout en rouge. Voilà. Exactement.
Premier jour de la semaine et ça ne se passe pas bien. Les baisses s'affichent en rouge sur les écrans de ces gestionnaires de fonds. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fur et à mesure, tout ce rouge va se transformer en semaine noire. La bourse qui fait le yo-yo, les investisseurs qui vendent, bah oui, ils paniquent. Et plutôt deux fois qu'une, eux qui pendant si longtemps ont vu la vie avec des lunettes roses. Flashback, nous sommes toujours lundi.
Donc mon nom est Sébastien Lalvé, donc je suis associé gérant de la financière Arbevel, une société de gestion. Il y a toujours cette journée qui fait que tout s'inverse. Ben là, en l'occurrence, c'était un lundi matin, et je pense que c'était le fait que l'Italie soit plus infectée d'un coup. On est en train de confiner 40% du PIB italien. Est-ce qu'après-demain, On va confiner l'Île-de-France? Est-ce qu'on va confiner la région PACA? Est-ce qu'on va confiner Lyon? Est-ce qu'on va... Vous voyez, on y est déjà, hein, de toute façon. Hein, l'industrie du tourisme commence à être gravement impactée. Donc, qui dit au tourisme dit hôtellerie. Qui dit hôtellerie, nous, on est actionnaire de Elis, par exemple, qui fait de la blanchisserie industrielle. Donc, vous avez des multiples chaînes de valeur qui commencent à être grippées et impactées. C'est ça, le vrai sujet. Donc, économiquement, on se retrouve devant une incertitude sur demain. Et quand les cours commencent à baisser, ben les gens sont de plus en plus stressés. Peu de gens réfléchissent en disant « Ok, qu'est-ce qui se passe? Combien ça vaut véritablement ?» Et ils voient dans leur portefeuille « Tiens, j'ai ce truc, il a baissé 30%, ben je vais le vendre avant mon prochain reporting. Comme ça, j'en ai plus. » C'est psychologique tout ça. Il y a une expression en bourse, on dit toujours « Il ne faut pas attraper les couteaux qui tombent. » Là, on est dedans, là, typiquement.
Des couteaux qui tombent, premier séisme boursier de la semaine donc, mais pour de nombreux économistes, le coronavirus n'est peut-être pas l'unique explication de ce qui vient de se jouer. Si l'épidémie a bien désorganisé et ralenti l'économie, elle ne permet pas à elle seule de comprendre ce plongeon des valeurs boursières. Il faut remonter au-delà pour y voir plus clair.
Là, vous voyez, par exemple, un article que j'ai reçu ce matin. Je ne vais pas vous mentir, c'est quasiment des centaines de mails par jour qui viennent du monde entier sur l'impact du coronavirus sur tel ou tel secteur. Je suis Valérie Mignon, je suis professeure d'économie à l'Université Paris-Nanterre, conseillère scientifique au CEPI. Alors, pour moi, la situation que l'on vit aujourd'hui sur les marchés financiers, ce n'est pas une surprise, fallait s'y attendre. Ce qui est peut-être plus une surprise, c'est le fait que les marchés aient dévissé si fortement. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on sortait d'une année 2019 où on a eu une tendance vraiment à la hausse sur l'ensemble des marchés financiers. Les indices boursiers ont enregistré des performances records. Mais donc la question, c'est est-ce que cette situation, en fait, en 2019, était une situation normale? Est-ce qu'elle reflétait vraiment la situation économique? Selon moi, non. On était quand même dans un contexte de ralentissement économique latent. On a eu une érosion de la croissance des pays émergents, le mouvement des Gilets jaunes en France. Par rapport à la vraie situation économique, vous avez donc une déconnexion concrète.
Est-ce que ça veut dire qu'on était un petit peu dans une bulle?
Oui, complètement. On avait un contexte économique au niveau mondial qui n'était pas favorable. Et le coronavirus qui s'est déclenché et qui a provoqué la baisse à cet instant donné des marchés financiers. Il fallait s'attendre à cette baisse. L'ampleur de la baisse peut être attribuée au coronavirus, mais la baisse en elle-même, non.
C'est un véritable krach qui a eu lieu.
Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes.
La raison pour laquelle les marchés financiers ont dévissé, c'est que les déclarations du président Trump sont l'expression parfaite de l'explosion de tout ce qu'a été le multilatéralisme des 40 ou 50 dernières années. Ça signifie que comme cette crise d'une crise mondiale, s'il n'y a pas de coopération entre les États, il n'y a pas de solution facile. Et ça, j'allais dire, ça augmente l'anxiété générale sur l'évolution de l'économie mondiale. Je crois qu'on a quelques semaines devant nous qui ne sont pas faciles.
Ah là là, drôle de temps. Il y a clairement une tempête et le sujet, c'est de savoir si le bateau est suffisamment bien équipé pour ne pas couler dès qu'il y a des vagues un petit peu grosses.
Donc là, on nous autorise à rentrer dans la Bourse de Paris.
Là, c'était le lieu physique où la bourse se tenait. Maintenant, ça se tient intégralement de façon électronique.
Nous voici à présent sous les colonnes du Palais Brongniart à Paris avec Thierry Philippona, ancien banquier, ancien trader, désormais l'un des porte-parole de l'ONG Finance Watch, ONG qui appelle aujourd'hui à la plus grande vigilance pour aider les entreprises qui souffrent en ce moment, impactées par l'épidémie. Les banques viennent d'être temporairement autorisées à s'affranchir de certaines règles, mais pour cet observateur du système financier, c'est la solidité même du secteur bancaire qui est en jeu.
On est clairement dans un effet d'emballement qui est lié à la question de la confiance dans la solidité du système. Le sujet principal, c'est de savoir si tout le système financier est suffisamment solide, suffisamment résilient pour encaisser les chocs. C'est pas le moment de baisser la garde. C'est pas le moment, alors que la maison semble, je vais être très prudent dans la formulation, semble commencer à brûler, de mettre les extincteurs à la poubelle. Le fait qu'il y a, par exemple, un certain nombre de procédures qui sont prévues, le système a prévu qu'il y ait des stress tests des banques qui soient conduits, tout ça, ce sont des mesures qui permettent de contrôler la situation. On a mis à peu près 10 ans à construire ses règles. Après la crise des subprimes de 2007-2008, avec un grand mot d'ordre qui est plus jamais ça. Donc là, la tempête arrive, ou en tout cas de très grosses vagues. C'est pas le moment de dire, ces règles, pour pouvoir mieux tenir la mer en cas de gros temps, on va les oublier.
Donc, et c'est un peu la tentation, vous le sentez aujourd'hui ?
Il y a une pression pour aller dans ce sens-là, des lobbies bancaires. Clairement, on a vu la Fédération bancaire européenne, par exemple, basée à Bruxelles, faire des demandes très très claires dans ce sens-là. On ne peut pas dire, il suffit que le monde bancaire fasse du crédit aux entreprises et puis tout continuera. Alors, à court terme, oui, c'est indispensable, parce que sinon tout va s'arrêter. Mais il ne faut pas casser le thermomètre, il faut savoir en permanence où on en est, parce que sinon, on pourrait, je parle au conditionnel, avoir à nouveau des problèmes de faillite bancaire. Et l'intérêt général en matière bancaire et dans des temps de stress financier, c'est que tout le système ne s'écroule pas. Parce que quand le système bancaire s'écroule, la société s'arrête. Et là, c'est vraiment trop grave.
Le film d'une semaine noire sur les marchés financiers, un reportage signé Claire Chaudière.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et on va continuer à parler de ces marchés financiers avec le patron d'Euronext. Bonjour Stéphane Boujna.
Bonjour.
Euronext, il faut nous expliquer.
Euronext, c'est une entreprise qui opère les bourses, les marchés de capitaux à Paris, à Amsterdam, à Bruxelles, à Lisbonne, mais aussi à Dublin et à Oslo.
Donc une vision pan-européenne. Les bourses ont dévissé cette semaine. Le CAC 40, on l'a dit plusieurs fois, a connu la pire journée de son histoire. Vous, Stéphane Boujna, comment vous la qualifiez ? Est-ce que c'était une semaine sidérante, terrifiante, stupéfiante ?
Je crois que la première chose à faire dans les moments qu'on traverse, c'est d'éviter les mots chargés d'émotions. C'est une chute qui est brutale, qui est importante, qui n'a pas eu lieu depuis de très nombreuses années, mais c'est une chute qui nous ramène à un niveau, pour parler dans des termes plus simples, de 4000 points environ, c'est-à-dire
le
niveau du CAC, que le CAC 40 avait en juillet 2016. Donc, en valeur absolue, ça n'est pas un effondrement total de la valorisation des entreprises françaises. Et donc, ce qui est important, c'est que ça a baissé brutalement par rapport à un niveau qui était très élevé, qui était autour de 6000 points. Donc, on a une chute brutale.
Est-ce que c'était trop élevé ? On l'a entendu dans le reportage, une des intervenantes parle même de bulle.
Je ne sais pas si c'était trop élevé. Je sais que c'était élevé, puisque ça a baissé brutalement. Donc, on est passé de 6000 points à 4000 points, une chute brutale, et on a un niveau de 2016. Il faut savoir que, encore une fois, pour utiliser cet élément de synthèse qui est le CAC, à 4000 points, il est resté entre 3000 et 4000 points entre 2012, 2013 et 2016. Donc, on est dans des niveaux absolus qui ne sont pas des niveaux qui se sont effondrés. Et donc, d'une certaine manière, cela reflète le fait qu'il y a une inquiétude des investisseurs sur la nature de la crise que nous sommes en train de vivre. Mais il y a eu quand même un rebond important vendredi,
hier,
à la suite des messages qui ont été portés par les différents gouvernements. Donc on est très sensible en France à la déclaration du président de la République jeudi soir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le même soir, dans l'après-midi du jeudi, la première ministre norvégienne a fait une déclaration comparable. Le premier ministre irlandais a fait une déclaration tout à fait comparable. Le soir même, pendant que Emmanuel Macron parlait, quelques minutes après, le premier ministre portugais sortant de son conseil des ministres a fait des recommandations identiques et a porté des engagements tout à fait similaires. Donc il y a une convergence et les choses sont passées dans les mêmes conditions en Belgique et aux Pays-Bas.
Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que j'imagine que les auditeurs derrière le poste, ils se disent, est-ce que ça veut dire ce que Stéphane Boujna nous dit, que lundi va peut-être bien se passer, la semaine prochaine va peut-être bien se passer ? Est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce que ça veut dire que pour vous, les investisseurs ont entendu quand même des messages qui peuvent apaiser cette panique ?
Il y a deux choses. Ce que je voulais dire sur ce qui s'est passé vendredi, c'est que les investisseurs ont compris que la réponse politique de soutien qu'a très bien illustré Nicolas Dufourcq, plutôt, qui met en œuvre les orientations du président de la République, mais dans chaque pays, les dispositifs similaires sont mis en place, en Allemagne avec KfW et d'autres choses identiques. Les investisseurs ont compris que la réponse de soutien macroéconomique est massive et immédiate. Et c'est important parce que en 2008, 2009, 2010, la raison pour laquelle la crise avait été longue à juin, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de consensus politique dans les différents pays. Il a fallu du temps pour surmonter le débat, mais est-ce qu'on va pas prendre l'argent du contribuable uniquement pour sauver les banques ? Est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Est-ce que c'est pas bien, etc. ? Est-ce que les banques doivent pas payer pour, entre guillemets, leur turpitude ? On n'est pas là. Ici, il y a un consensus. Et donc, ce consensus profond qu'il faut soutenir la société, parce qu'on a tous dans nos
familles... Mais donc ça veut dire que vous êtes confiant ? C'est ça que j'essaie de comprendre.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les marchés ont absorbé ce message de soutien public massif coordonné. Par ailleurs, Il y a l'autre aspect qui est quels sont les effets réels sur l'économie réelle de la crise que nous sommes en train de vivre. Et là, je rejoins les analyses qui ont été faites précédemment. C'est une crise qui tourne autour d'un événement qui s'appelle une épidémie. Cette épidémie, elle a un début et elle aura une fin. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement différent des crises précédentes. Cette épidémie, elle est plus brutale dans la transmission de ses effets dans l'économie réelle, puisqu'il y a des gens qui n'ont plus de clients, puisqu'il y a des gens qui n'arrivent pas à recevoir leurs composants, etc. Il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Tout ça est vrai, mais tout ça a un début et tout ça aura une fin.
Et ça, les marchés en sont conscients ?
Les marchés analysent toutes ces informations. Les marchés commencent à observer ce qu'on a observé en Chine, c'est-à-dire le début d'une fin de l'épidémie en Chine. Ce n'est pas parce que en Chine, dans un certain contexte administratif et politique, l'épidémie a été confinée, qu'elle le sera nécessairement dans les mêmes conditions en Europe. Ce n'est pas parce qu'on aura réglé le problème en Europe qu'on l'aura réglé aussi en Inde. Le jour où les centres informatiques de Bangalore,
ils doivent prendre des décisions,
de Bangalore,
bien sûr,
etc., sont atteints, il se passera d'autres choses. Il y a des pays qui ont moins d'infrastructures sanitaires comme des continents comme l'Afrique ou qui pourraient rencontrer cette épidémie et la gérer dans des conditions plus difficiles. Donc les choses ne sont pas, mais il y aura une fin. Et ce qui est très important, c'est de se préparer au jour d'après.
Stéphane Boujna, il y a une question quand même sur... alors, vous n'avez pas prononcé le mot, mais on va dire correction alors sur les marchés. Je ne sais pas s'il vous convient. Il y a une question, c'est quel est le rôle des robots ? On a dit qu'il pouvait y avoir que maintenant, la bourse était de plus en plus régie par des robots, des stratégies de vente, et que finalement, ça pouvait être mis en question.
Oui, mais on fait porter aux robots beaucoup de responsabilité en fonction des circonstances. Il y a quelques semaines, on disait encore que la raison pour laquelle la bourse restait élevée était liée au fait qu'il y avait beaucoup de robots, que les robots, je le disais moi-même, n'écoutaient pas CNN et n'avaient pas de sensibilité aux événements stratégiques. Aujourd'hui, on dit les robots sont procycliques et ont vendu plus vite. La réalité, c'est que en période de crise, les humains reprennent le contrôle des algorithmes. La réalité, c'est que il y a eu une reprise en main des processus de décision, notamment ce qu'on appelle les allocations stratégiques, c'est est-ce qu'il vaut mieux investir dans les actions ou dans les obligations, par exemple, par des décisions stratégiques qui en ont rien à voir avec l'intervention des algorithmes.
Donc vous exonérez les robots de cette responsabilité-là. On a vu vous avez dit que les investisseurs étaient en train d'intégrer les réponses des gouvernements. Ce qui est intéressant, c'est que ces 10 dernières années, le pompier en chef, c'était la Banque centrale. Et là, cette fois-ci, cette semaine, on a eu plusieurs réponses de banques centrales, notamment la Fed et la BCE. Et la BCE, notamment, ça n'a pas du tout marché. Est-ce que ça veut dire que, finalement, pour les investisseurs aujourd'hui, ce pompier-là, il ne marche plus ? L'argent bon marché, ça ne marche plus ?
Non, l'argent bon marché est un... Et les pompiers étaient déjà prépositionnés par l'abondance de liquidités qui est en place. La crise que nous vivons aujourd'hui, sans les mécanismes en place de liquidités abondantes, serait beaucoup plus grave. Donc, ce que les marchés ont dit, c'est cette réponse en termes de liquidités n'est probablement pas la plus pertinente. Les messages qui ont été les plus pertinents, c'est les messages de relance et de soutien budgétaire qui ont été annoncés par les gouvernements jeudi soir et jeudi après-midi à travers l'Europe. Et même, d'une certaine manière aussi, au Royaume-Uni et par le président des États-Unis avec son style particulier. Mais ça, c'est réel. Et ça, c'est beaucoup plus... Il y a d'autres choses plus nuancées, qui plus techniques, mais qui sont importantes. C'est que à Francfort, il y a aussi le patron du système de supervision bancaire qui a dit on va donner des exemptions sur les ratios de capitaux exigés par les banques. Ça va avoir un effet sur la reprise du crédit beaucoup plus important que celui sur les liquidités. Donc le système se met en place de manière extrêmement rapidement coordonnée, et c'est pour ça que je suis très confiant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et là Nicolas Dufour avait raison de parler de psychologie des acteurs, on a tous dans nos familles des gens qui sont médecins ou soignants, qui vivent des moments extrêmement éprouvants, on a tous dans nos familles des personnes âgées qui sont... On a tendance et à juste titre, parce que c'est des drames personnels douloureux, à surpondérer cet élément-là. Par rapport à la question que vous posez, qui sont les marchés, la crise est en réalité beaucoup plus circonscrite qu'on l'imagine.
Alors, une dernière question, Stéphane Boujna. Il y a à peine 4 mois, on était à la privatisation de la Française des Jeux. Là, on devait aller vers celle du groupe Aéroport de Paris. Avec la réforme des retraites, on était en train de parler de capitalisation pour les plus hauts revenus. Et si l'épargnant français avait raison, il est peut-être en train de se dire ça, il est méfiant vis-à-vis de la bourse.
Non, je crois que on a une réalité qu'il y a les taux fixes, les instruments à taux fixes restent bas. La seule classe d'actifs qui permet de reconstruire du rendement, ce sont les actions. Et surtout, il va y avoir d'énormes gisements d'innovation dans l'entreprise. Tout le monde va travailler différemment. Nous, chez Euronext, on est submergé de demandes pour un produit qui s'appelle, par exemple, les assemblées générales par Internet ou online, qu'on va développer massivement. La manière dont on travaille va changer. Il faut quand même il faut comprendre une chose. Un jour, le printemps refleurira et il faut continuer à faire des projets, continuer à faire des plans, continuer à innover. Et c'est ça qui fait que, qui est la meilleure garantie de sortie de crise.
Stéphane Boujna, le patron d'Euronext, l'opérateur boursier. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Sandrine Foulon, et on en vient à la vie au boulot, hein. Encore beaucoup de questions d'auditeurs qui ne peuvent plus travailler. Les salariés en chômage partiel ne perdront pas un centime, c'est ce qu'a dit le ministre de l'économie. C'est bien le cas ?
Alors non, une personne en chômage partiel perçoit 70% de son salaire brut ou 84% de son salaire net. Donc, hormis les salariés qui sont payés au SMIC, tous les autres perdent 16% de leur salaire net, mais pas leur boulot. Ce qui change, c'est l'énorme coup de pouce que l'État donne aux entreprises. Il va entièrement financer ces périodes chômées. Au lieu de verser une somme forfaitaire de 7,50 € par heure non travaillée, peu importe qu'il y ait des salaires d'ouvriers ou de cadres dans l'entreprise, l'État va contribuer à hauteur de 70% du salaire. Ça va coûter cher, plus de 5000 entreprises ont déjà demandé à bénéficier de l'activité partielle, mais ça permet de garder son boulot. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à Camille, une auditrice qui travaille dans un magasin de vêtements parisien, normalement très fréquenté par les touristes. Sa direction met fin aux périodes d'essai de vendeurs en CDI et ne renouvelle pas les CDD à cause du Covid-19. Eh bien oui Camille, votre entreprise a tout à fait le droit de faire ça, mais si elle utilisait le chômage partiel, elle pourrait conserver des salariés bien formés dont elle est satisfaite. C'est essentiel au moment où l'activité repart.
Mais là, vous ne parlez que des salariés qui sont en chômage partiel. Comment ça se passe pour ceux à qui on demande de télétravailler tout en gardant les enfants à la maison ?
Ça, c'est la grosse question. À moins de caler les enfants devant les 1100 épisodes de Pokémon, se concentrer sur le boulot, c'est mission impossible. Le mieux, si on ne peut pas télétravailler, c'est de signaler à son employeur qu'on doit garder un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans. C'est lui qui fait la démarche auprès de la Sécu. Et c'est comme pour un arrêt maladie, un salarié touchera presque la totalité de son salaire puisque les indemnités journalières, c'est 50% du salaire versé par l'assurance maladie, le reste étant très souvent compensé par l'employeur. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Les libéraux, les indépendants ont des indemnités bien moindres. Tous ceux qui travaillent seuls, les auto-entrepreneurs, les consultants dont les contrats, les missions, les ateliers sont annulés, prennent cette crise de plein fouet. Et je ne parle pas des intermittents ou des permittents qui cumulent des contrats courts. Les mesures de l'assurance chômage qui doivent entrer en vigueur au 1er avril vont réduire le montant de leurs allocations. Les syndicats ont demandé au gouvernement d'y renoncer. Protéger les plus précaires doit aussi être une priorité, quoi qu'il en coûte.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.